Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous sommes les Muses et Muses, et nous continuons notre grand cycle sur le Louvre. Nous étions la dernière fois dans la salle des États, consacrée à la Joconde d'une part, et à la peinture vénitienne d'autre part. Plus précisément, nous nous trouvions devant Vénus et Mars de Lambert Sustris, un peintre flamand, ça n'est pas un nom vénitien du tout, mais il travaillait à Venise pour et avec le Titien, entre autres. Passons donc un peu à gauche de Vénus et Mars, et nous voyons Jupiter punissant les vices, un très grand tableau de 1556, très haut, 5 mètres, pour une largeur seulement de 3,6 m et de forme ovale. Ce format un peu bizarre s'explique par le fait que cette œuvre de Véronèse a été arrachée de la partie centrale du plafond de la salle des audiences du Conseil des Dix au Palais des Doges à Venise, lorsque, en 1797, Bonaparte envahit de Venise et détruit les structures politiques de la Sérénissime République. Ce fameux Conseil des Dix avait été créé en 1310, après que l'on ait pu déjouer le complot de Tiepolo, oui, le même nom de famille que le peintre, mais le peintre, lui, vivra 4 siècles plus tard. Officiellement, le Conseil des Dix devait réprimer et supprimer corruption et complot. Entre autres tâches, le Conseil des Dix supervisait les services secrets de Venise, de très loin les meilleurs du monde pendant des siècles. Avec une prudence et une sagesse toute vénitienne, les membres de ce conseil ne pouvaient pas y être élus 2 fois de suite, deux membres d'une même famille ne pouvaient pas y appartenir en même temps, et les 10 membres devaient loger au palais des Doges pendant l'intégralité de leur mandat. On reconnaît facilement en haut Jupiter, parce qu'il tient la foudre, et que parce qu'à côté de lui, on voit son aigle. Les vices sont un peu plus confus, mais si on prend le temps de bien regarder, on reconnaît la luxure, représentée par un couple enlacé, la rébellion, un homme qui détache ses liens, l'hérésie, un homme qui tient un manuscrit blasphématoire, et enfin, tout en bas, la corruption qui tient des pièces d'or. On comprend que cette peinture est en même temps un avertissement aux membres de ce Conseil des Dix, dont on leur recommande vivement de ne pas céder ni à la luxure, ni à la rébellion qui fomente les coups d'État, ni à l'hérésie, et moins encore à la corruption. Est-ce que cet avertissement a été utile? Dans certains cas, certainement pas. En tout cas, on sait qu'en revanche, la Sérénissime République de Venise a duré quasiment 1000 ans, ce qui prouve une certaine force de ses institutions. Continuons vers la gauche, et nous voici maintenant devant un tableau amusant et un peu grivois. On l'appelle la Vénus du Pardo, pas la Vénus du Prado, non, la Vénus du Pardo. Le Pardo est un petit palais espagnol à 6 km de Madrid. Et comme il a servi de quartier général aux brigades internationales pendant la guerre civile, ce salopard de Franco en fit sa résidence personnelle. Le Louvre appelle plutôt ce tableau « Jupiter et Antiope ». L'histoire est un thème absolument banal de la mythologie gréco-romaine et nous en devons le récit à Ovide dans ses « Métamorphoses ». Zeus, comme d'habitude, a envie d'une belle femme, dans ce cas Antiope. Alors il y a au moins 9 Antiopes différentes dans la mythologie grecque, et celle-ci n'est pas une Amazone. En tout cas, elle est très belle, et comme d'habitude, Zeus ne veut ni perdre du temps, ni se faire attraper par sa jalouse épouse, Héra, la déesse du mariage. C'est la raison pour laquelle il se change en satyre. Les satyres sont des demi-dieux, avec en haut l'apparence d'un homme, en bas l'apparence d'un bouc, animal libidineux s'il en fut, et au milieu tout ce qu'il faut pour rendre les dames heureuses, enfin heureuses quand ça leur chante. Afin de justifier visuellement la transformation de Jupiter en satyre, demi-dieu des forêts, Titien, l'auteur de ce tableau, nous présente donc une scène de chasse, donc en forêt. Il divise au moyen d'un arbre central la scène en deux. À gauche, sur fond d'arbre, deux chasseurs. L'un sonne du cor, l'autre tient deux chiens. Assis à côté des chiens, un satyre est représenté de dos, ce qui est une chose rare. Et chose plus rare encore, il se tient tranquille devant une femme assise en face de lui, pourtant fort jolie. Puis, dans l'arbre du milieu du tableau, suspendu à une branche, le carquois du petit dieu de l'amour, Cupidon. Et on voit donc, un cran au-dessus, Cupidon lui-même qui s'apprête à tirer une flèche sur le second satyre, qui là est Jupiter, et Jupiter enlève doucement le tissu, recouvrant la splendide nudité d'Antiope endormie, dont la main droite est proche de son sexe, de sa vulve, histoire de renforcer l'aspect libidineux de l'œuvre. Dans le fond de la partie droite, un paysage lointain et montagneux en arrière-plan et des chiens attaquant un cerf au milieu. Comme d'habitude chez le Titien, une parfaite maîtrise des couleurs avec la peau lumineuse d'Antiope comme pivot chromatique de la composition, ravivée par la robe rouge de l'autre femme et le bleu des montagnes lointaines.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'était bien entendu Eine kleine Nachtmusik de Mozart. Et nous sommes les Musamuses qui continuons notre cycle sur le Louvre. Nous sommes dans la salle des États, devant des œuvres de la peinture vénitienne. Nous continuons sur notre gauche, après avoir quitté la Vénus du Pardo, où le titre est aussi Jupiter et Antiope, et nous arrivons avec un beau Suzanne et les Vieillards de Véronèse, mais nous continuons vers la gauche et nous ressortons pour revenir dans la Grande Galerie. Là, nous tombons sur un fort joli Noli me tangere, de Fra Bartolomeo. Noli me tangere, ça signifie en latin « ne me touche pas ». Et on connaît au moins une cinquantaine de bons tableaux représentant cette scène, et ça, c'est sans compter les mauvais tableaux. De quelle scène s'agit-il donc ? Encore une fable bizarre des évangiles, dans ce cas précis, de l'évangile de Jean, chapitre 20. Donc, les Romains ont crucifié Jésus, il a été mis au tombeau, mais voilà-t-y pas que, et là je commence à lire, j'ouvre les guillemets, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, là j'interromps ma lecture à l'instant, le disciple que Jésus aimait, c'est le plus jeune, c'est Jean. Justement. Et nos amis les homosexuels sourient finement quand ils lisent ces mots. Sourions aussi, et continuons la lecture, je reprends donc. Et elle leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Bien sûr, jeune et mignon, Jean court plus vite que le vieux Pierre, je reprends. Et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandelettes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandelettes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais plié dans un lieu à part. Je reprends, moi. Là, le détail est épatant. Le linge bien plié après que Jésus, hop, se soit glissé hors du tombeau. Incidemment, l'une des raisons du succès du christianisme, c'est précisément que, d'un point de vue purement littéraire, les évangiles sont un très bon roman, très bien écrit. et dans lequel, aussi idiote et invraisemblable que soit la fable que l'on raconte, on ajoute ce genre de détails concrets, précis, qui renforcent l'illusion d'authenticité. Des siècles plus tard, Stendhal appellera ça « les petits faits vrais ». Bon, je reprends la lecture de l'Évangile. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Alors, je reprends. Encore une touche littéraire géniale, ces mots si simples, si quotidiens, comme une mère de famille qui cherche le rôti en soupçonnant que le chat l'a bouffé. Je reprends la lecture. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Et elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Fermez les guillemets, lecture de l'Évangile terminée. Alors, notons tout d'abord ceci, ange en grec, ça veut dire messager. Et le préfixe que nous francisons en e, et ou ev, ça signifie bon. Donc, l'Évangile signifie étymologiquement le bon message, la bonne nouvelle, et vous savez que le christianisme rabâche depuis 2000 ans qu'il est la bonne nouvelle. Mais surtout, à l'intérieur du christianisme, si le catholicisme affirme être la version originale, la version supérieure, la bonne version, et si le catholicisme affirme que son chef, le pape, a le droit et le devoir de diriger l'Église, c'est parce qu'il est le successeur de Saint-Pierre, le chef des apôtres, les gars qui diffusent la bonne nouvelle. Oui, mais si le pape est le chef parce qu'il est le successeur du chef de ceux qui diffusent la nouvelle de la résurrection de Jésus, et si Saint-Pierre est ce chef parce que c'est lui qui a vu le premier le tombeau vide, ou en fait ça n'est pas lui le premier, la première, c'est Marie-Madeleine, c'est elle qui la première annonce la bonne nouvelle, donc ce devrait être elle le chef. La première pape, le premier pape en toute logique aurait dû être une papesse, Marie-Madeleine. Je me permets donc une hypothèse, je répète, une hypothèse. Ce bref et bizarre moment où Jésus dit à Marie-Madeleine de ne pas le toucher pourrait bien avoir été ajouté ou imaginé pour déconsidérer Marie-Madeleine. Elle voit Dieu, mais tout ce qu'elle veut, c'est toucher ce beau mâle. D'ailleurs, ce besoin de déconsidérer Marie-Madeleine est évidemment, comme l'a montré Marina Warner dans son livre sur elle, j'en ai souvent parlé, à l'origine de l'attribution du nom de Marie-Madeleine à la prostituée absolument pas nommée dans le passage des évangiles qui la concerne, celle qui recycle ses économies en un vase de parfum qu'elle brise aux pieds de Jésus afin de lui laver les pieds avec précisément ce parfum. Décemment. L'Église ne pouvait pas affirmer qu'une prostituée avait été la première apôtresse, si vous me pardonnez ce néologisme. Cela explique qu'à ce moment-là, la popularité de ce thème iconographique un peu incompréhensible du « noli me tangere ». Il s'agit de remettre les femmes à leur place, ces ignorantes femelles toutes dominées par leurs organes mais et qui devant un dieu ne voient qu'un mâle. Et puis, mine de rien, il s'agit aussi de parler un peu de sexe dans les églises. Bien sûr, Le commentaire chrétien de cette fable veut qu'elle soit une preuve de la résurrection de Jésus. Bon, on sait ce qu'il en est des preuves dans le christianisme. À part ça, le tableau est charmant à cause de l'élégance des attitudes des deux personnages principaux. Je dis principaux parce que l'observateur attentif remarque qu'il y a deux autres scènes. À gauche, la résurrection proprement dite avec Jésus en vêtements blancs qui lévite au-dessus de soldats romains profondément endormis. Et incidemment, on peut se demander pourquoi Jésus n'a pas profité de l'occasion de convertir les 10 soldats romains. Parce que franchement, voir un mort léviter au-dessus de son tombeau, ça doit faire une certaine impression. Bon, glissons. Et puis à droite de la scène principale de ce Noliment Metangere de Fra Bartolomeo, on voit dans le lointain, on voit les trois saintes femmes qui vont venir constater la vacuité du tombeau. Terminons en rappelant que si le peintre est connu sous le nom de Fra Bartolomeo, c'est parce qu'il s'agit bien d'un moine, dominicain. D'où son célèbre portrait d'un autre dominicain, l'éminemment dangereux Savonarole, l'ennemi de la sexualité florentine, et le créateur du bûcher des vanités, où moult florentins et florentines brûlèrent des vêtements précieux, des livres pas assez chrétiens, et même, dans le cas de Fra Bartolomeo et de Botticelli, des tableaux et des dessins pas assez chrétiens eux non plus. Rappelons que l'Inquisition fut principalement affaire de dominicains et que Torquemada était un moine dominicain. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous sommes toujours les Muses s'amusent, dans notre grand cycle sur le Louvre, nous sommes toujours dans la grande galerie du Louvre, nous étions devant le Noli me tangere de Fra Bartolomeo et nous nous tournons vers notre droite. Quelques pas en avant, et toujours sur notre droite, mais il se peut quand même que le Louvre les ait changés de côté, parce qu'en ce moment, le Louvre fait des choses bizarres avec les tableaux de Raphaël. Donc, les tableaux de Raphaël, le Louvre en a 13 tableaux de Raffaello Sanzio et de l'atelier de Raphaël. Raphaël, on le sait, c'est l'un des trois grands noms de la peinture italienne, avec Léonard de Vinci, et Michel-Ange, même si lui, il est mort beaucoup plus jeune qu'eux, puisqu'il est mort à 37 ans en 1520. Un vrai Mozart de la peinture, d'ailleurs la musique, c'était un Musikalspaß de Mozart. Un Mozart de la peinture, donc, puisque ses contemporains, et surtout ses collègues et ses clients, lui donnent déjà le titre de maître alors qu'il est encore adolescent. Quand je dis maître, je ne parle pas exactement du mot respectueux que l'on utilisait il y a un siècle en s'adressant à un artiste. Non, je parle d'un mot très concret qui désigne le patron d'un grand atelier. En effet, Raffaello Sanzio hérite de l'atelier de son père à l'âge tout à fait tendre de 11 ans. À 13 ans, des lettres conservées dans les archives prouvent qu'on lui passe déjà des commandes en l'appelant maître, alors qu'en même temps, il continue pourtant à se perfectionner dans le métier, sous l'égide d'un autre peintre, le Pérugin. À ce point que pour un certain nombre de ses premières œuvres, il y a eu des controverses entre critiques pour savoir qui avait peint quoi du Pérugin ou de Raphaël. Au contraire d'un Michel-Ange bourru, au contraire d'un Léonard de Vinci très attaché à son indépendance, Raphaël, en sus d'être un peintre à succès, sera universellement considéré comme un homme agréable, plaisant, charmant, quel que soit le milieu où il évolue, et même dans les plus hautes sphères de la société italienne, et l'on sait que quelle que soit la société, l'atmosphère des hautes sphères, pour être plus raffinée que celle de la mafia, n'est pas moins cruelle. C'est peut-être dû au fait qu'il ait grandi à Urbino, une ville pas très grande, dont le duc avait une cour pas très grande non plus, mais très cultivée, et très raffiné. Raphaël y eut ses entrées très tôt et semble avoir beaucoup profité de ce qu'il y a appris. Cette élégance sociale se retrouve dans tous ses tableaux. Jamais de sang, jamais de caricature, hormis celle des démons, jamais rien de tragique, mais de merveilleuses lignes qui ressemblent à des révérences de cour et des couleurs toujours en harmonie. Je ne saurais trop d'ailleurs recommandé de regarder un tout petit tableau qui n'est pas au Louvre, mais au musée Condé à Chantilly. Les Trois Grâces, sujet rebattu s'il en fut, et dont tous les auteurs, peintres ou sculpteurs s'efforcent de le rendre dans évidemment le style le plus gracieux qui soit. Mais celui de Raphaël, le tableau de Raphaël des Trois Grâces, est de très loin le plus gracieux, le plus élégant. Sa peinture sans aspérité, sans conflit, et pourtant sans superficialité, sans limitation à un hédonisme facile, explique l'énorme prestige de Raphaël au XIXe siècle. On n'a jamais été moins révolutionnaire que Raphaël. Et pas incidemment du tout, les Vierges, les Madones, dont Raphaël se fit une spécialité, présentent un type de féminité simultanément asexuelle et hypersexualisée. Asexuelle en ce sens que les Vierges Marie raphaëlesques sont dépourvues d'amants, d'admirateurs et bien sûr d'époux. Mais elles sont si belles, si jeunes, si parfaites, qu'un regard moderne ne peut pas ne pas voir en elle des objets sexuels, même des poupées sexuelles, certes infiniment plus belles que les abominables poupées sexuelles réelles de notre époque, mais tout aussi dépourvues de neurones dans le crâne. On comprend qu'un écrivain aussi réactionnaire que Balzac ait porté Raphaël au nu dans presque chacun de ses 53 romans. On comprend aussi qu'aujourd'hui, on ne voit plus en lui le meilleur de cette sainte trinité de la peinture italienne, Léonard, Michel-Ange et Raphaël, mais au contraire, le bon troisième, après l'écrasant Michel-Ange et le stupéfiant Léonard de Vinci. Comme eux, pourtant, il sait à peu près tout faire, et tout ce qu'il fait est magnifique. Bon, venons-en maintenant aux œuvres disponibles au Louvre. Pour des raisons qui m'échappent, elles sont donc parfois déplacées. Je ne dirai pas exactement où elles se trouvent, ou hormis le fait qu'elles sont donc à la sortie de la salle des États, dans la Grande Galerie. Commençons par la plus surprenante, appelée Saint-Michel, ou encore Saint-Michel ou le Dragon, ou encore le Petit Saint-Michel. Petit parce que 31 cm sur 26, est peint sur le dos, sur l'autre face d'un damier. Il s'agirait d'un cadeau pour Louis XII, roi de France, qui venait de décerner l'ordre du Saint-Esprit à François-Marie della Rovere. Pourquoi ai-je qualifié cette peinture de surprenante? Parce qu'on y voit très clairement l'influence des peintres flamands, et en particulier, du moins raphaélesque d'entre eux, Jérôme Bosch. Oui, regardez bien les démons du Petit Saint-Michel. Deux sont représentés de manière drôle mais très classique, mais les trois autres viennent tout droit d'un tableau de Jérôme Bosch. Quant aux autres détails de l'œuvre, les critiques italiens y voient des références à la Divine Comédie de Dante. Par exemple, les tombes enflammées qui sont celles des hérétiques, ou la procession de personnages masqués par des capuches qui évoquent les hypocrites de l'enfer de Dante, et les enfants torturés par des serpents évoquent, eux, les voleurs de l'enfer de Dante. Mais j'ai dit un peu plus tôt, jamais rien de tragique, et l'on pourrait me démentir facilement en disant que toute description de l'enfer est par définition tragique. Je maintiens pourtant mon expression parce que à cet enfer on n'y croit pas. Il est petit, et il est mignon. Passons à un autre tableautin d'un charme tout aussi raphaélesque. Saint-Georges et le dragon. Alors à nouveau, à ne pas confondre avec Saint-Michel et le dragon, dont je viens de parler à l'instant. Alors on y croit encore moins à ce Saint-Georges, tant la composition du tableau rayonne d'un fabuleux équilibre entre le dynamisme de sa dominante oblique, de la gauche en bas vers la droite en haut, et les diversions des multiples spirales, la spirale étant une figure très aimée de Raphaël, et ces spirales étant le corps du dragon, le geste de Saint-Georges, le corps du cheval blanc, et enfin toute la princesse effrayée qui se sauve. Et ce fabuleux équilibre compositionnel fait d'autant mieux oublier ce qui est censé se passer que Raphaël peint le visage de Saint-Georges en lui donnant un détachement aristocratique, de noble chevalier massacrant un manant sans presque y penser, enlevant par là toute violence à la scène, qui pourtant devrait représenter l'arrêt brutal d'une tentative de viol par un démon. Notons que cette structure mythique du jeune et beau prince ou saint ou guerrier sauvant une jeune et belle princesse ou demoiselle ou vierge innocente de l'assaut d'un affreux esprit malin, eh bien cette structure mythique est à peu près universelle. On la trouve dans vraiment presque toutes les cultures du monde. Et l'une des explications que l'on pourrait donner de cette universalité est que même les cultures les plus machos, les cultures les moins féministes, se rendent quand même compte qu'il faut enseigner aux jeunes mâles qu'ils ne sont pas censés violer les jeunes femmes, en tout cas pas sans une bonne excuse appelée mariage, et qu'un vrai jeune mâle protège les vraies jeunes filles. Et donc, comme dans beaucoup de mythes, les différents personnages ne sont pas des personnages indépendants, mais ils représentent chacun nos différents désirs, nos différentes pulsions, bref, nos différentes instances psychologiques présentes dans notre esprit. L'histoire racontée par les mythes, c'est l'histoire de nos constantes tentatives de trouver ou de retrouver l'équilibre en réconciliant ces différentes instances. Je ne saurais trop recommander, excusez-moi, de faire de la publicité, et pire, excusez-moi, de me faire de la publicité. Enfin, je ne saurais trop recommander la lecture de mon livre qui résume l'excellentissime psychologie de Paul Diehl, le livre étant intitulé « Comprendre nos choix avec la psychologie de la motivation de Paul Diehl » et ça a été publié chez Chronique sociale. Vous remarquerez un peu plus loin, on va à nouveau ouvrir les guillemets, le grand Saint-Michel, que le Louvre appelle aussi Saint-Michel terrassant le démon. Ah, incontestablement grand, puisqu'il fait 2,60 m sur 1,60 m. Il s'agit d'une commande, en 1518, par le pape Léon X, Jean de Médicis, qu'il a offerte à François Ier, notre François Ier, à l'occasion du mariage de Laurent II de Médicis, neveu de ce pape Médicis, avec une dame appelée Madeleine de la Tour d'Auvergne, donc une femme tout à fait française. Là, le thème de Saint-Michel a vraisemblablement été choisi parce que François Ier était, en tant que roi de France, grand maître de l'ordre de Saint-Michel, fondé par Louis XI. De même, le paysage, qui se veut pris depuis un point très élevé et qui représente, au fond, la mer, pourrait se référer à la devise de l'ordre de Saint-Michel, Immensi tremor oceani, la crainte de l'immense océan, elle-même allusion à l'emplacement du mont Saint-Michel, cette colline escarpée située en pleine mer quand la marée est haute. Certains critiques, et ce depuis fort longtemps, suggèrent que le tableau ne serait pas de Raphaël, mais de l'un de ses élèves et collaborateurs, Giulio Romano. Bon, cela dépasse évidemment mes compétences, mais ce tableau m'a toujours semblé moins beau, moins intéressant, moins créatif que les autres Raphaël du Louvre. Alors, cela ne me surprendrait pas si cette attribution pouvait un jour être prouvée. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous sommes toujours les Muses s'amusent, dans leur grand cycle sur le Louvre, nous sommes dans la Grande Galerie, et nous cherchons les différents tableaux de Raphaël. Alors il faudra vous éloigner, vous avancer un petit peu plus dans la Grande Galerie, pour trouver le Raphaël le plus éloigné, le portrait de Baldassare Castiglione. On sait que Raphaël a eu le privilège de voir la Joconde en cours d'élaboration et qu'il en a fait un croquis. On sait aussi que la Joconde a une composition en deux formes fondamentales. D'abord, une pyramide qui part de ses bras, s'élève à ses seins, puis son visage et enfin son crâne. Et l'autre forme fondamentale, c'est la spirale suggérée par le fait que Léonard ne l'a pas peinte de face, mais en train de tourner la tête. Ces compositions pyramidales, enfin les compositions pyramidales, agrémentées de petites spirales qui partent dans tous les sens, sont la grande spécialité de Raphaël. Je viens d'en parler commentant le Saint-Michel, le Saint-Georges et le Dragon. Et j'en reparlerai en commentant la Belle Jardinière. À l'évidence, avec ce portrait de Castiglione, Raphaël a voulu refaire la Joconde, mais en version masculine. Il se contente d'accentuer la torsion de la tête. En revanche, il se distingue de Léonard de Vinci en ceci que la Joconde n'est pas et ne peut pas être un portrait véridique. C'est un visage bien trop idéalisé. Alors que le portrait de Castiglione, lui, est un vrai portrait, un portrait très véridique et certainement l'un des plus réussis de l'histoire de la peinture, si l'on prend comme critère la capacité à rendre présente, à représenter une personne réelle. Nous ne savons évidemment pas à quoi ressemblait réellement Baldassare et Castiglione, mais ce tableau, ce portrait, a une puissance de réalité stupéfiante. Encore plus stupéfiante lorsque l'on sait qui fut Castiglione, un noble italien au moment de la Renaissance, mais surtout l'auteur du Livre du courtisan, un étonnant manuel de savoir-vivre à l'usage, on s'en doute, des courtisans. Dans ce livre, Castiglione recommande, entre autres choses aux courtisans, de savoir peindre et jouer d'un instrument de musique, ce qui s'explique à son époque où les multiples cours des multiples princes et multiples petits états souverains de l'Italie rivalisaient, mais heureusement ne rivalisaient pas seulement à coups d'épée et à coups de canon, mais aussi à coups de pinceau et de bel canto. Si au moins nos modernes courtisans, les cadres très supérieurs, jouant des coudes pour devenir les PDG à 30 millions d'euros de salaire par an, si ces gars-là savaient au moins peindre et chanter. Une chose surprenante à propos de ce livre du courtisan, sa seule traduction en français moderne par Alain Ponce n'a été d'abord publiée que par les éditions Gérard Lebovici, maison d'édition situationniste s'il en faut, puis rééditée par son successeur Ivrea. Incidemment, on la trouve quand même aussi maintenant en Garnier Flammarion. On peut se demander pourquoi diable Guy Debord et ses partenaires voulaient éditer un manuel du bon courtisan, mais il faut se souvenir que Debord se définissait comme, je cite, un stratège. Et on peut donc convenir qu'un livre enseignant comment réussir dans une cour princière ou seigneuriale peut faire partie des champs d'investigation de la stratégie. Or, Raphaël a réussi le bel exploit dans ce portrait de Baldassare Castiglione de rendre l'intelligence de Castiglione. Oui, l'intelligence. Franchement, combien de portraitistes se fixent comme objectif de rendre l'intelligence de la personne portraiturée? Parce que dans les rares cas, très rares, où la dite intelligence est clairement perçue, elle est souvent contaminée par une autre caractéristique. J'en veux pour preuve, célébrissime, le portrait du pape Innocent X par Velázquez. Un portrait extraordinaire de vérité psychologique qui représente un pape hautement intelligent et un vrai salopard, ce que confirme l'histoire de ce pape assez guerrier. Mais là, dans ce portrait de Castiglione par Raphaël, c'est l'intelligence qui rayonne, voire la sagesse. Enfin, d'ordinaire juste à côté du portrait de Baltasar et Castiglione, le non moins étonnant autoportrait avec un ami, toujours de Raphaël. On y reconnaît aisément Raphaël, à gauche, mais on ne sait toujours pas qui est l'homme, habillé exactement de la même manière que Raphaël, et probablement en gros du même âge, que l'on voit à droite. Mais une chose est sûre, il n'y a pas tant de portraits d'amis que ça dans la peinture. Attention, oui, bien des peintres ont tiré le portrait d'un de leurs amis. Mais un autoportrait avec l'un des amis du peintre, cela se voit rarement, et ce tableau de Raphaël est sans doute le plus beau dans ce genre si rare. Revenez un peu sur vos pas en direction de la salle des États pour retrouver un tableau de Raphaël, la belle jardinière, qui est donc l'une de ces nombreuses madones, l'une de ces nombreuses Vierges Marie qu'il a peint et qu'il a peint avec tant de succès à la fois à son époque et au XIXe siècle. J'ai donc un peu parlé de ce côté à la fois asexuel et hypersexualisé de ces Vierges Marie. Et aujourd'hui, par conséquent, ce qu'il y a de plus agréable pour nous en regardant ces tableaux, c'est d'admirer les compositions. À nouveau, une composition globalement pyramidale, mais remarquablement décorée de toute une série de spirales. Dans le cas de ce tableau, les deux enfants protagonistes, c'est-à-dire Jésus et Saint Jean-Baptiste, ont des poses qui génèrent des spirales qui sont heureusement un petit peu moins théâtrales et qu'on trouvait que ce que l'on voit d'ordinaire dans ce genre de tableau. Et la Madone assise, ses jambes, son torse, ses bras, son visage, eux aussi génèrent des spirales virtuelles qui sont toutes d'une élégance parfaite. Quant aux harmonies chromatiques, elles sont peu spectaculaires, on n'est pas chez le Titien, mais elles sont extrêmement agréables. Et à nouveau, cet hédonisme raphaëlesque est fort heureusement un hédonisme sans superficialité. J'entends bien sans superficialité visuelle, sans superficialité graphique, parce que le thème, lui, est un thème hautement rebattu. Mais ça n'est pas grave. À nouveau, ça reste très agréable à regarder. Thank you.
pris ses peinards sur un vaporetto. Et j'ai dit, si tu veux, on va au resto. Mais avant qu'on ait goûté le plat, tout de nouilles, je sais plus pourquoi, mais tout est parti en couille. T'as raison, engueulons-nous, puisque tu tiens sous l'étoile dorée du Titien. Là dans la ville des amoureux, tu veux qu'on règle un truc ou deux. Qu'on discute et qu'est-ce tu veux que je dise, chez les clans. Y'a dispute et malaise à Venise. Chouette décembre, on se crie dessus là sur les valises. Grosse tempête, y'a dispute et malaise à Venise. C'est trop bête. On rêvait d'amour. Résonne encore au pas, Lady Doge. T'as raison, vivons nos sauts de mer d'ici, chez Lorenzo de Medici. Là dans la ville des amoureux, tu veux qu'on règle un truc ou deux. Qu'on discute et qu'est-ce tu veux.
Le midi, c'est la backing track. Ouais, parce que j'ai l'impression que je pensais que c'était dessus. Je vais y aller vite, mais à part, attends, je vais voir quand même.
Ok. Attends, je vais l'éjecter.
Attends, regarde Logic avant. Attends.
Ah, t'as les sessions normalement qui apparaissent.
Ouais, regarde Moonfire, s'il y a.
Ah oui, quand même.
Non, Moonfire en dessous là. Ouais, Fire. Non, merde, ils sont pas dessus. Je pensais qu'ils étaient dessus. Bah, on va aller sur. Tu vas mettre une page. Ouais, mais ça, c'est les backings. Ouais. C'est toutes les. C'est toutes les pistes séparées. Okay. Ouais, ah, donc, pas si t'as internet, tu fais.
C'est pas celui-là.
Ah, c'est, ah oui, c'est le midi.
Ça, c'est le midi. Ça, c'est... C'est quoi, c'est un
Bandcamp ou
c'est Bandcamp, ouais. Ok. Simple. Ce sera les deux morceaux là, quoi. Okay. Le 2 et 3.
super.
Ça va, ça s'est bien passé, Sébastien ?
Ouais, nickel.
Bon, ça va. Ça va mieux, ton mal de crâne, là ?
Ouais, ça va passer, parce que quand même, plus chez lui, j'étais chargé, donc c'était... Voilà.
Et puis avec la chaleur...
Ouais, mais là, ce froid, je vais dormir tranquille après. Je vais rentrer, je vais...
Direct. Tu m'étonnes.
Voilà, et je vais dormir demain jusqu'à 1 heure, je pense.
C'est clair.
Je vais me réveiller plus.
Juste pour tester le micro et le casque pour voir.
Là-bas.
D'accord.
Allô, allô. Là, j'entends rien. Non. Non. Non.
D'accord.
Ok. Bon, ben ça va. Allô, allô.
Non, alors, non, on va commencer. Donc, du coup, on commence avec Sébastien.
Non.
Sébastien Desfioles. Donc, vous pouvez mettre. Alors, il y a Estelle qui viendra pour sa chronique, mais il y a Sébastien, il vient, il fait, on va l'interviewer en premier.
Tu veux pas que je change de.
Et vous, voilà, vous avez, on a encore beaucoup de pas mal de temps. Après, vous pourriez vous mettre là, mais sinon, lui va s'installer après pour vraiment son live.
Ouais,
allô, allô.
On est tranquille, on a le temps.
J'entends ici, c'est bon.
Moi, j'entends.
Sur la deuxième partie de l'émission, vous êtes là, tranquille.
Ouais.
Bon, après, ça va, je prends pas trop
non.
de place.
Non, non, c'est après, c'est parce que je veux que tout le monde soit à l'aise, donc après, ça. Non, mais Seb, après, quand t'as fini ton interview, tu peux rester hein, pour l'interview de Polaris, ça peut être sympa.
Hein
comme vous avez des petits trucs en commun, moi j'aimerais bien.
Ah non, moi je suis parti pour rester.
Pour,
allô, allô.
Là, moi je me mets là, tu vois, et après, peut-être Estelle va se mettre là, et vous deux, vous pouvez mettre là, enfin, on va voir.
Je capte
quand il y a le live,
ni au
night of noise, hummingbird, a cold and dust, and I saw that girl. She came to shine, her eyes so deep, and in the watchroom she was spying me. Dreams consumed and I cried and choked, spitting blood, bathroom floor.
Bah, j'étais avec, avec Vincent qui avait fait aussi un titre. On avait enregistré à la cantine. T'étais là ou quoi? Est-ce que tu peux participer à la cantine?
La Féline, putain, c'est une petite.
Oui. D'accord, je vois, je vais toi.
Joël ! Joël, on n'a jamais commencé en retard. Jamais. Pas une seule fois. Et je ne veux pas que ça commence. On y va ? Merci. Joël !
Je t'aime.
Bon, on va commencer simplement. Je me présente, comme d'hab, t'as le conducteur. La seule chose, c'est que si on peut avoir Jean-Pierre Morgan à 22h35, c'est super. Franchement, c'est parce que là, pour me dire qu'il aimerait bien que ce soit très très tôt. Donc si on peut l'avoir, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Eh, il y a José qui dit qu'il est rentré dans le venu de la chambre. Il est rentré. De ma gauche, une personne que je connais très bien, c'est Sébastien Béfiol. Je vais être souvent parlé, voilà, ce qu'il y a avec ce projet, et ce pion de vie, en fait. Et là, il y a un nouveau projet qui est issu de ce pion de vie, qui s'appelle donc Kiss Me Black. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, les bienvenus. Sur la dernière fois, Sébastien, pour les auditeurs qui ont suivi d'autres émissions, d'autres, voilà, d'autres radios. Vous savez, vous connaissez, on a sur nos antennes, donc il va nous expliquer un peu ce qu'il fait avec son dernier EP, son EP qui s'appelle
Room Silence.
Voilà, Room Silence. Il a fait déjà quelques concerts, oui, on a pu voir en novembre au